Bien, nous bénissons le Seigneur qui permet que nous puissions encore nous retrouver. L'année 2015 vient de s'écouler et l'année 2016 est déjà là. Parce que nous sommes encore dans la période de bilan. Robert, dans ce message de le jour de réveillon que nous avons eu ici à l'église, pour ceux qui étaient présents, il avait donné quelques pistes pour pouvoir permettre que chacun puisse faire son bilan. Parce qu'il y en a qui l'ont déjà fait, et il y en a qui ont tardé et qui continuent à faire leur bilan. Comme l'année nouvelle est là, c'est aussi une année, comme nous sommes encore à ses débuts, où nous devons renouveler notre engagement devant le Seigneur. Ou améliorer les engagements qu'on a pris. Ou carrément prendre de nouveaux engagements, pourquoi pas. Bien-aimés, nous allons partir de la réalité que nous vivons dans le pays. La France est en guerre, n'est-ce pas? La France est en guerre contre qui? Contre le terrorisme. Et nous voyons les militaires en armes qui circulent dans le pays, sur l'ensemble du pays. Parce que le pays est en guerre. L'ennemi, il n'est pas visible, mais il est là, prêt à frapper à chaque instant. C'est ainsi que toutes les forces armées sont mobilisées, même les forces policières, même toutes les forces spéciales, le GIGN, le BRI, le RAID, toutes ces forces-là, sont en état de guerre. Toutes les forces spéciales. Parce qu'il y a la guerre. Nous aussi, enfants de Dieu, comme l'Église de Jésus-Christ, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, mais notre guerre, c'est une guerre spirituelle. L'Église, qui est une structure mise en place pour mener cette guerre, la guerre spirituelle, elle aussi a de sous-structures spécialisées, toujours pour aider à l'Église de gagner cette guerre, le combat de la foi que nous avons. Parmi ces structures, il y a les Gédéons, Ligue pour la lecture de la Bible dans les milieux, dans les cités universitaires et aussi dans les hôpitaux. Il y a aussi les hommes d'affaires de plein évangile. Là, on essaie aussi, l'Église essaie d'atteindre les hommes d'affaires qui s'occupent du business, qui n'ont pas le temps d'aller à l'Église. L'Église a songé à eux. Il y a ces structures là-bas qui s'occupent de ces gens-là. Et il y a aussi les portes ouvertes. Une structure qui est basée, je crois, ici en France, et qui s'occupe de l'Église dans l'ensemble, dans le monde entier. Partout où l'Église est en difficulté, l'Église persécutée, eh bien, les portes ouvertes sont présentes pour pouvoir subvenir aux besoins de de l'Église. Les portes ouvertes ont rendu beaucoup de services et rendent encore beaucoup de services à l'Église persécutée. Vous ne savez pas, mais par exemple en Irak, en Syrie, il y a la guerre, les bombes tombent chaque jour. Les portes ouvertes sont là. S'occupent des enfants de Dieu. S'occupent de sauveté de Dieu. Alors, à la fin de mon message, après, il y aura un sketch qui sera présenté par les enfants de NTJ. Et là, le but de ce sketch, c'est pour récolter des fonds. Ces fonds qui vont servir aux portes ouvertes de venir en aide à l'église persécutée. Il y a parfois, on détruit les églises. Parfois, les églises sont brûlées. Bon, j'ai suivi une fois en Iran. On est arrivé, les forces spéciales de ce pays étaient arrivées, ont pris toutes les Bibles dans l'église. On est allé chez le pasteur, on a pris toutes les Bibles, tout ce qui avait trait à la Bible. On a amené tout ça. Donc, vous voyez, il y a un manque. Et il faut que ces gens, nos frères, aient des Bibles. Eh bien, les portes ouvertes s'occupent de ça. Avec le terrorisme en Afrique, au Niger, par exemple, on avait brûlé beaucoup d'églises. Même des maisons de sécurité des dieux et des pasteurs étaient brûlées. Ce sont les portes ouvertes qui sont allées en appui, en aide à ces frères et sœurs qui étaient en difficulté. Bien aimé, l'Église de Jésus-Christ est persécutée à travers le monde. Et les portes ouvertes sont présentes partout. Donc, ici, en donnant de l'argent, nous contribuons au combat que mènent les portes ouvertes, cette structure spécialisée de l'Église. Amen. Donc, vous êtes déjà sensibilisés. Les enfants, ils vont devoir présenter un sketch. L'objectif, c'est récolter des fonds qu'on va remettre à nos bien-aimés des portes ouvertes. Ils en ont besoin. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Il disait à son fils Timothée. Aux Éphésiens, Paul dira, Éphésiens chapitre 6, dans la parole de Dieu, Paul dira, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les pouvoirs, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits impurs, les esprits méchants dans le lieu céleste. Voilà notre ennemi à nous, enfants de Dieu, comme Église. Il est aussi connu, la Bible nous en parle. En plus de cet ennemi, notre propre chair, c'est notre ennemi. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. C'est ce que la Bible dit. Et puis, bon, il y a un troisième ennemi de l'homme, du chrétien, le monde. Le monde, c'est encore un autre ennemi. Voilà les trois ennemis auxquels chaque chrétien doit faire face. Et nous voulons bien le rappeler en ce début de l'année, parce qu'il y en a qui semblent dormir. Il y en a qui sont distraits. Alors que maintenant, nous parlons, comme je vous dis, la France est en guerre. Même les policiers, vous avez vu dernièrement, il y a un monsieur qui est allé attaquer les policiers à l'arme blanche. Si les policiers étaient distraits, il allait en poignarder un. Mais comme ils sont dans un état de guerre, ils sont prêts. Ils savent qu'ils sont en guerre, ils sont vigilants. Voilà ce que je voulais dire. Voilà. Le policier a eu le réflexe de tirer avant. Vous avez vu les images, ça passe à la télévision. Nous aussi, des mêmes bien-aimés, nous sommes dans l'état de guerre. Notre ennemi, à l'œil nu, on ne le voit pas. On ne le voit pas. C'est le plus redoutable. Les dominations, les pouvoirs, les princes des ténèbres de ce monde des ténèbres, les princes, on dit bien. Et puis les esprits méchants dans les lieux célestes. Souvent, il y a des témoignages, les gens donnent des témoignages. d'avoir reçu une visite de l'ange. Et souvent, ça passe à l'église et les gens sont contents et d'autres qui se demandent comment lui va les anges, comment... Bon, elle a eu une sœur dans ma communauté, dans mon pays à Kinshasa. Elle a demandé au Seigneur plutôt, au lieu d'une visite des anges, elle a voulu plutôt voir les démons. Et on en parle, mais on ne les voit jamais. Alors la Bible dit, si mes paroles demeurent en vous, et que, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. N'est-ce pas? Dans Jean chapitre 15, verset 5 ou 7. Bon, alors, fort de cette certitude de la parole de Dieu, bon, elle s'est mise à prier, à demander que le Seigneur lui montre les démons. Et le Seigneur lui a montré. Je ne veux pas les décrire parce que nous allons passer beaucoup de temps inutilement. Mais je retiens une chose. Elle a dit, après qu'elle ait vu ces démons, que c'est vraiment horrible. Vraiment horrible. N'osez pas faire cette expérience-là. Tellement que ces démons sont horribles. Alors, bien-aimés, nous devons seulement savoir que nous sommes en guerre. Et les ennemis, je viens de vous le montrer. Mais alors, bien-aimés, pour faire cette guerre, pour mener cette guerre que nous avons, le Seigneur Jésus-Christ, notre général, s'il faut l'appeler ainsi, a besoin de bons soldats. Oui, de bons soldats. Alors, c'est là où je vais tirer mon thème de ce matin. Nous allons lire dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 4. Nous lisons. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Amen. Voilà. Paul écrit à son fils légitime dans la foi. Et il lui dit qu'il souffre avec lui comme un bon soldat. Moi, ça m'a fait réfléchir quand Paul dit ça à Timothée. Il ajoute l'adjectif qualificatif « bon soldat ». C'est-à-dire, Paul avait dans sa tête, où il a connu, des mauvais soldats. Il lui dit, parce que cette guerre que nous menons, annoncer la bonne nouvelle du salut, fait que ceux qui annoncent cette bonne nouvelle, ils sont aussi sujets de beaucoup de souffrances. C'est ça la vérité. Vous voyez, notre maître, le Seigneur, comment il a fini sa vie. Nous savons comment il a fini sa vie. Et nous allons aussi passer par là. Ne vous faites pas d'illusion. Nous allons aussi passer par là. C'est un chemin obligé. La souffrance. Job, d'ailleurs, a dit, voir ce qu'il a connu, il a dit, le sort de l'homme, ce n'est pas celui d'un soldat. Je crois dans Job, chapitre 7, verset 1. Voici ce que Job a dit. C'est ça la réalité que nous vivons au quotidien. Job, chapitre 7. Ah, voilà. Le sort de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. C'est pour dire, les soldats de Jésus-Christ que nous sommes, le travail que nous faisons d'annoncer l'évangile, il y a la souffrance qui est liée à ce travail-là. Et nous n'allons pas y échapper. Alors, Paul, ayant déjà lui-même passé par beaucoup de difficultés, exhorte son fils à aussi faire comme lui, mener un bon combat, le combat de la foi. Alors, il faut qu'il soit un bon soldat. Parce que, verset 4, il dit, « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » C'est qu'il en a observé. Alors, les mauvais soldats, il y en a, parce que Paul parle de Timothée pour qu'il souffre avec lui comme un bon soldat. C'est qu'il y a des mauvais. Il y en a. Alors, je vais parler des bons et des mauvais soldats. Mais je vais beaucoup plus insister sur des bons soldats. Le Seigneur Jésus attend de nous que nous soyons des bons soldats. Parce que Paul dit, souffre avec moi comme un bon soldat. Il y a des mauvais. Mais nous n'allons pas imiter le mauvais exemple. Je vais plutôt parler plus des qualités des bons soldats. Mais voyons d'abord les mauvais. Dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 18 à 20. 1 Timothée, chapitre 1, verset 18 à 20. Nous lisons. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant. Enfant spirituel, hein, pas enfant biologique. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant. Selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. En gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ces nombres sont Hyménée, Alexandre, que j'ai livré à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Vous voyez? Paul exhorte son fils, son enfant légitime, pour le bon combat de la foi. Lui, il a combattu, il a achevé la course, et il a gardé la foi. Et il dit, désormais, la couronne de vie m'est réservée. Alléluia. Voilà ce à quoi nous devons aussi arriver, nous, aujourd'hui. Nous sommes en train de combattre, nous devons aussi achever la course et garder la foi. Mais ici, nous voyons ce que moi j'appelle des mauvais soldats qui ont fait naufrage par rapport à la foi. De ces nombres, il y a Hyménée, Alexandre, et il y a aussi Philette. Alors, dans les recherches qu'on a faites, j'ai trouvé que les trois, c'était des docteurs de la loi. Hyménée, Alexandre et Philette. C'était des docteurs. Mais alors, des docteurs qui enseignaient des contre-vérités. Ils enseignaient à leur temps que la résurrection des morts a déjà eu lieu. Alors qu'il n'est pas encore arrivé. Nous aussi, nous attendons la résurrection des morts. N'est-ce pas? Voilà une vérité à laquelle, une contre-vérité à laquelle Paul attire l'attention de son fils, qu'il fasse attention quand il dit « comme un bon soldat ». Parce qu'il y a des mauvais. Voici, je vous les donne, les trois là. Si vous lisez, ici on a cité deux, hein, mais je vous cite un troisième qui s'appelle Philette. Des mauvais soldats. Mais Paul veut que son fils suive plutôt le modèle des bons soldats. Vous savez, au début, les douze apôtres de Jésus-Christ, Ils avaient comme modèle Jésus-Christ lui-même. Par la suite, quand l'église est née, elle a commencé à grandir. Alors, les enfants spirituels ont besoin parfois de modèles. D'abord, ici, nous voyons Timothée a comme modèle Paul. C'est lui qui a prêché la parole de Dieu. Alors, il était avec son père spirituel à tout moment. Et il voyait comment il enseignait. Comment il prenait ses positions. Comment il présentait la parole de Dieu. Il a vu sa conduite. Et il a vu aussi ses souffrances. Alors, petit à petit, il commençait à prendre conscience, ayant aussi compris la parole de Dieu, ayant aussi l'Esprit du Seigneur, il a compris de quelle manière il fallait s'y prendre dans l'annonce de l'Évangile. Alors, Timothée avait aussi des modèles, et le modèle qui lui était présenté, c'était lui-même Paul. Et il ne voulait pas se limiter là. Et il voulait aussi lui faire voir des bons modèles. Non seulement lui, mais il y en a encore d'autres. Et ces autres modèles, c'est les 11 disciples de Jésus-Christ qui sont les contemporains de Paul. Alors, Paul va présenter, d'après ce que moi j'ai compris, il a connu des bons modèles qui voudrait que ce soit des modèles que Timothée doit imiter. Nous lisons dans 1 Jean chapitre 4. 1 Jean 1, s'il vous plaît. 1 Jean chapitre 1, versets 1 à 4. Essayez de comprendre la pensée de Paul. J'ai vu qu'il met la part des choses entre les mauvais soldats. Et il va maintenant lui présenter des bons soldats. Qui sont-ils? On va les découvrir. 1 Jean 1, versets 1 à 4. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec le Fils et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Voilà un des apôtres contemporains de Paul. Voilà ce qu'il écrit, ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, ce que nous avons entendu, ce que nous vous annonçons. Amen. Ils veulent parler de Jésus-Christ parce qu'ils l'ont vu, ils l'ont entendu, ils l'ont même touché. J'ai même appris beaucoup de liberté de remettre sur l'épaule de Jésus-Christ. Alors, Jean dit ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons touché, c'est ce que nous vous annonçons. C'est ce que nous annonçons nous aussi aujourd'hui. C'est ce que nous devons aussi annoncer nous aussi aujourd'hui. Amen. Il y en a qui n'aiment pas le mot devoir là. Mais bien-aimés, nous sommes des soldats. En tant que soldats, nous devons annoncer l'Évangile. C'est un devoir que le Seigneur nous a donné. Il dit même, nous avons reçu gratuitement, nous devons aussi donner gratuitement. Alors, ici, nous voyons les paroles d'un des apôtres qui annonce Jésus-Christ, que toi et moi, nous devons aussi annoncer. Parce que voyez-vous, il y a une sœur qui était venue ici. Bon, notre sœur de l'église, je ne vais pas citer son nom, elle avait amené sa petite sœur le jour où on a reçu notre frère qui vient du Canada. Pardon? Stéphane Kerry, voilà. Alors, il avait amené sa petite sœur qui est dit athée. Alors, chaque fois quand, après des chants, à un moment donné, Stéphane Kéry avait fait un appel. Il a même demandé qu'on fasse la prière d'acceptation de Jésus-Christ dans son cœur. Alors, j'étais en train d'observer du coin de l'œil, parce que j'étais là, bon, elle n'était pas loin de chez moi, pour voir si jamais elle a fait ce geste-là. Bon, j'ai vu qu'elle était là un peu comme de marbre, elle ne faisait que regarder. Mais après, je suis allé vers elle, bon, pour dire, mais comment tu as trouvé le concert? Je dis, très bien. Elle dit, mais c'est magnifique. Je dis, oui. Mais alors, à un moment donné, le chanteur a demandé qu'on fasse une prière là, d'invocation, d'acceptation de Jésus-Christ. Tu as fait cette prière? Elle dit non. Oh, comment tu as dit non? Moi, tu dis bien que la musique était bonne. Non, cette musique a annoncé un message. Pourquoi est-ce que... j'avais utilisé des bons mots pour l'amener à la... Parce que je le connais, elle est très difficile, quoi. Bon, je voulais savoir si elle a fait cette prière parce que c'était important. Alors, j'ai évoqué les jeunes qui étaient à Bataclan. Ils étaient nombreux. Je dis, tu sais ça? Je dis, oui. Bon, ces jeunes-là, ils sont morts, d'après toi. Parce qu'il n'y a que deux voies. Ou bien on va chez Dieu, ou bien on va chez Satan. D'après toi, ces jeunes de Bataclan, d'après toi, ils sont allés chez Dieu? Ou d'après toi, où ils sont allés? Parce que si tu as fait un bon choix, tu es venu écouter la musique. Laquelle musique loue une personne? Jésus de Nazareth. Amen. Bon, elle était indifférente, il dit non. Bon, alors j'ai vu qu'elle n'était plus vraiment à l'aise, alors j'ai arrêté là-bas. Bien-aimé, notre devoir, c'est d'annoncer Jésus-Christ. Jésus-Christ ressuscité. Les 11, maintenant on parle des 11, hein, parce qu'il y a un qui s'était pendu. Ils l'ont vu. Ils l'ont entendu. Ils l'ont même touché. Alors, les 11, les contemporains de Paul, parce que Paul veut exhorter son fils, veut donner des mots modèles. Je pense que, tu vois, nous avons lu dans 2 Timothée, quand la lettre de Paul à Timothée, Paul et 1 Timothée, c'était la première lettre. Et c'est là que Paul parle d'Alexandre, de Hyménée et de Philette, le faux docteur. Et puis, deuxième lettre, c'est là qu'il exhorte Timothée à être un bon soldat. Donc, Paul connaissait déjà ces faux docteurs. Et puis, il connaît les bons docteurs, s'il faut appeler ainsi les 11. Alors, maintenant, il veut l'amener à ce qu'il ne puisse pas imiter les mauvais soldats, mais plutôt les bons. Les 11. Alors, les 11 étaient à l'œuvre. Nous allons voir maintenant les 11 dans leur travail, dans leur ministère, ce qu'ils ont marqué, ce qu'ils ont annoncé et leur comportement. Alors, dans Actes 5, versets 26 à 32, nous lisons Actes chapitre 5. Nous allons voir maintenant le comportement, les qualités des bons soldats, comme Paul l'a dit à Timothée. Et nous avons vu là-bas les mauvais soldats, ils ont fait un naufrage parce qu'ils ont perdu la bonne conscience. Très important. Dans notre vie spirituelle, nous devons tenir compte de notre conscience. Ce que notre conscience nous dit, nous ne devons pas la souiller. Quand elle est souillée, alors il faut que la conscience, c'est comme un pilier de la foi. Mais quand la conscience s'effondre, la foi à son tour risque de s'effondrer. Dans Actes chapitre 5, versets 26 à 32, nous lisons ceci. Alors, le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Bien-aimés, pour que vous compreniez bien ce passage, on parle du Sanhédrin. Qu'est-ce que le Sanhédrin? Pour voir, pour bien saisir le comportement des onze. Eh bien, le Sanhédrin, c'est une institution qui formait le gouvernement national ainsi que le tribunal du peuple juif. C'était une institution hybride. Elle était en même temps le gouvernement et elle était en même temps le tribunal. Le conseil, aujourd'hui, pouvoir judiciaire et pouvoir exécutif, les deux ensemble. C'est comme ça que les choses fonctionnent à cette époque-là. Et cette institution, le Sanhédrin, comptait 70 membres plus le souverain sacrificateur, ça fait 71. Voilà. C'est devant cette institution que les onze vont pouvoir dire clairement que faut-il obéir à vous ou bien à Dieu. Parce qu'eux, ils avaient le pouvoir de condamnation. C'est le Sanhédrin qui avait condamné Jésus. Oui. Mais ils n'ont pas craint. Amen. Ils disent, nous vous avons défendu expressément d'enseigner en ce nom-là. Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Donc, bien qu'on leur avait interdit, mais eux ont continué. Amen. Les bons soldats, ils obéissent à leur maître. Mais les autorités de ce monde les en avaient empêchés. Et ils ont dit non. Ils ont continué. Ils ont rempli la ville de Jérusalem de l'enseignement sur Jésus-Christ. Alors, on va les arrêter. Ils vont comparaître. Et Pierre va répondre. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alléluia. Vous obéissez à qui, vous? Ah bon? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. À qui nous obéissons, nous, chrétiens d'aujourd'hui? À Dieu ou aux hommes? Alors, bien-aimés, ici je vais relever une première qualité des apôtres à partir de ce comportement. C'était des hommes obéissants. Dans la lecture que j'ai faite, j'ai vu le comportement de ses disciples, les onze. Voici, parce qu'ils obéissaient à Dieu, voici ce que Dieu dit. Dans Matthieu 10, versets 26 à 28, eux, ils obéissent à leur maître, à la parole de leur maître. Qu'est-ce que le maître a dit? Le maître dit ceci. Dans Matthieu 10, versets 26 à 28. Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la guerre. Amen. Voilà. Et ils connaissent les disciples, ils connaissent la parole de leur Seigneur. Craignez plutôt celui qui fait périr et l'âme et le corps. Ne craignez pas celui qui fait périr le corps. Quel est notre comportement aujourd'hui vis-à-vis de l'hostilité que nous rencontrons quand nous annonçons l'évangile de Jésus-Christ? Jésus nous a mis en garde. À peine nous avons accepté Jésus comme Seigneur Sauveur, moi j'entends Jésus qui dit à chacun de nous, c'est une parole qu'on a découverte après, dans Luc 9, 23, Jésus dit ceci, que celui qui veut me suivre renonce à lui-même, se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Moi, je crois que ce sont des paroles que Jésus dit quand nous venons à lui, oh, je vais te suivre. Moi, j'accepte comme mon Seigneur Sauveur. Il dit oui. Tu me reçois comme Seigneur Sauveur? Oui, très bien. Alors, chez moi, il y a des conditions. La première, renonce à toi-même. Première condition. Deuxième, charge-toi de ta croix chaque jour. Troisièmement, suivez-moi. Amen. Luc 9, 23. Et ils savaient ça. Maintenant, ils sont confrontés à ça. Ils ont renoncé à eux-mêmes. Ils ont laissé leurs femmes, leurs enfants, leurs entreprises, il faut le dire ainsi, à cette époque-là. Et ils ont suivi Jésus. Et ils ont commencé à annoncer, bon, on a tué Jésus, et ils se sont mis à enseigner la parole de Dieu. On les a arrêtés, on leur a dit, plus question d'enseigner ce Seigneur-là. Tu veux retomber le sang de ce monsieur là-bas sur nous? Mais eux n'ont pas arrêté, ils ont continué à enseigner la parole de Dieu, à enseigner Jésus-Christ, à faire la bonne nouvelle. Ils ont bravé. Ils sont allés, ils n'ont pas obéi à l'ordre qui leur avait été donné. Ils ont plutôt obéi à l'ordre de Jésus-Christ, leur Seigneur, leur Maître, qui dit, ne les craignez pas, ceux qui tuent le corps. Craignez plutôt ceux qui tuent l'âme et le corps. Amen. Là, je vois des hommes obéissants. Ils connaissent la parole de Dieu et la mettent en pratique. C'était des hommes courageux. Dans Actes 4, 16 à 20, nous lisons, Actes chapitre 4, Actes chapitre 4, versets 16 à 20, nous lisons, car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Amen. Jugez vous-même. Est-il nécessaire qu'on obéisse à vous ou à Dieu? Parce que tous, nous disons ici, s'éviter de Dieu. Bon, jugez vous-même. S'il est juste devant Dieu d'obéir, de vous obéir ou plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Amen. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Qui n'est pas entendu ici? Combien de fois vous entendez? Si vous ne lisez pas, vous entendez ici. Bon, et puis nous disons que chacun doit avoir, tout bon chrétien, bon soldat, doit avoir son arme. Les militaires, nous le voyons, ils ont leurs armes. Hein. Ils ne se baladent pas comme ça. Hein. D'ailleurs, même les policiers, ils sont en train de négocier pour qu'ils aient des armes, même quand ils ne sont pas en service. Oui, ils sont en train de le faire. Parce qu'ils ne doivent pas se balader comme ça. Parce que dès qu'on les voit en tenue de police, allez, les terroristes, ils s'en prennent à eux. Comme on a tué, comme un lapin, la Clarisse Jean-Philippe. Elle n'avait pas d'armes, alors on a tiré sur elle. Elle est morte. Alors les policiers sont en train de négocier qu'ils aient maintenant des armes, à tout moment, à chaque instant. Bien-aimé, un bon soldat de Jésus-Christ doit avoir la Bible. C'est ça notre arme. Il y en a qui ne manquent pas la Bible. Et s'il y en a qui en ont, elle est trop poussiéreuse. Oui, là, il y a de la poussière parce qu'on ne la lit pas. J'ai rencontré certains jeunes à qui je vais parler du Seigneur. S'ils avaient des Bibles, la plupart c'était des filles. Elles m'ont dit qu'elles n'avaient pas de Bible. Il y a une ou deux là-bas qui ont dit, non, moi j'ai une Bible. Mais la Bible, c'est la Bible de ma grand-mère. La grand-mère a une Bible. Et il lui a fait cadeau. Est-ce qu'elle a lu? Deux comme ça ont dit qu'ils ont des Bibles. Et les Bibles, c'est la Bible de leur grand-mère. Mais elles-mêmes n'en ont pas, elles n'ont pas acheté. Bien-aimés, un bon soldat doit avoir l'arme. Voici l'arme, notre arme. Redoutable, celle-là. Il faut la voir. Bien-aimés, ne vous contentez pas seulement d'écouter ce que nous prêchons ici. Lisez vous-même la parole de Dieu, entrez en contact avec cette parole. Il va se passer des choses dans votre vie. D'abord, la parole de Dieu nous dit, heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles, la prophétie de ce livre. Heureux celui qui lit. Quand on lit, on est seul. Mais quand on écoute, maintenant, vous êtes plusieurs. Moi, je parle, vous écoutez. Alors, et vous, et moi, quand vous écoutez, et quand je lis seul, tous nous sommes heureux. Dans Ésaïe 34, verset 16, il est dit, consultez le livre de l'Éternel et lisez. C'est un ordre. Qu'est-ce que vous en faites? Vous lisez? C'est le Seigneur qui parle. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Comme bon soldat, il faut lire la parole de Dieu. Non seulement la lire, mais mettre en pratique. Bien-aimés, tu vois le courage de ces hommes. Ils sont courageux. Ils disent aux membres de Sanhédrin, jugez vous-même s'il est juste de venir à vous plutôt qu'à Dieu. Jugez. Ils disent aux membres de Sanhédrin qui ont le droit de vie et de mort sur eux. C'est le Sanhédrin, pouvoir judiciaire et exécutif en même temps, à cette époque-là. Et eux, maintenant, ils ont problème de conscience que c'est Jésus qu'ils ont tué. Eux sont ses disciples, ils parlent, ils prêchent Jésus. Maintenant, ils ont problème de conscience. Ils disent que non, vous voulez faire retomber le sang de ces messieurs sur nous. N'enseignez pas sur ces messieurs là-bas. Il ne faut pas parler de ce nom de Jésus-là. Donc, ils ont problème de conscience. Et ils ont pris la mesure de les empêcher d'enseigner. Nous, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Peuple de Dieu, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Bien-aimés, j'ai relevé une troisième qualité. Les disciples, c'était des hommes de prière. Dans Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 23 à 31. Nous allons quand même lire ce passage. Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 23 à 31. Ok. C'est juste après ce que nous venons de dire là-bas. Après avoir été relâchés, les 11, parce qu'ils devaient comparaître devant le Sanhédrin, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont levés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur, Jésus que tu as oint, Hérode, Ponce, Pilate, se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, écoutez, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Donc, ils recouraient chaque fois à la prière, à leur maître. Quand ça ne va pas, ils viennent, ils pleurent devant lui. Et lui, il les réconforte, il les remplit du Saint-Esprit. Alors, ils se mettent debout avec assurance. Ils s'en vont. Prêcher la parole de Dieu, comme des bons soldats. Alléluia. Voilà ce que nous devons faire, bien-aimés. Nous devons être des bons soldats. Voici comment se présentent les bons soldats de Jésus-Christ et nous des mauvais. Combien aujourd'hui continuent à fumer? Combien ils vivent dans la fornication? Combien dans l'adultère? Combien se disent chrétiens? Hein? Alors, quel genre de chrétien vous êtes? C'est ça des bons soldats? La prière de mardi, combien viennent? Vous, des bons soldats. Comment vous pouvez être un bon soldat quand vous ne priez pas? Priez seul, oui, mais aussi en groupe. C'est ce que la Bible nous dit. Et si nous voyons les 11 ont prié ensemble, et le résultat, là où ils ont prié, la terre a tremblé. Et puis ils étaient remplis du Saint-Esprit. Voilà les qualités de mon soldat. Des hommes de prière. Enfin, j'ai relevé une autre qualité. C'était des hommes humbles. Les 11 disciples, humbles. Et ils n'étaient pas orgueilleux. Hein. C'est grave. Aujourd'hui, il y a des chrétiens orgueilleux. Hein. Chrétiens, mais orgueilleux. Bizarre, incroyable, mais vrai. Chrétiens orgueilleux. Comment ça peut arriver? Parce que la Bible nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Alors, comment vous allez tenir devant l'ennemi? Qui est très rusé, c'est ce que la Bible nous dit. Très rusé. Très fin. Très subtil. Comment? Alors, voici une qualité des disciples, les 11. Nous allons voir ça dans Acte 5, verset 17 à 21. Acte 5, verset 17 à 21. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie. Mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Alléluia. Vous voyez? Les disciples, ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils témoignaient, ils parlaient, ils annonçaient Jésus. Les membres du Sanhédrin étaient mécontents. Alors on les arrête, allez, on les flanque en prison publique. Il dit, nous vous empêchons et vous continuez. Allez, vous êtes passé dans la prison. Et là, bien aimé, il n'avait aucune chance de s'en sortir. Le Seigneur lui-même est intervenu. Sachez-le bien, quand nous annonçons, nous faisons la volonté de Dieu, Dieu nous accompagne toujours et ne nous abandonne pas.
Ici, le Seigneur a envoyé un ange. Il est descendu. Et a ouvert les portes de la prison et dit, allez, sortez. Allez annoncer les paroles de cette vie. Bien-aimé. Ce n'est pas avec le raisonnement. Ah, si j'ai fait ceci, ils feront ceci. Ah non, ça ne va pas. Mais ici, il n'y a pas à raisonner. Il y a à obéir, à faire, à mettre en pratique la parole de Dieu. Dieu lui-même sait les difficultés qui vous surviendront. Lui-même interviendra. Parce qu'il ne peut pas se régner lui-même. Dieu est fidèle. Quand nous demeurons infidèles, lui demeure fidèle. Et lui, il veut que Jésus soit annoncé, la bonne nouvelle du salut, à toute la création. Comment va-t-il vous laisser ne pas annoncer cette bonne nouvelle? Comment?
Alors sinon, Dieu n'est plus Dieu.
Il se contredit lui-même. Que faisons-nous, bien-aimés? Lève-nous! Prêchons la bonne nouvelle! Soyons à l'offensive.
Mais aujourd'hui, je vois que beaucoup sont plus à la défensive.
Donc, nous devons être à l'offensive, comme les apôtres, les onze. Voilà le bon exemple que Paul voudrait que son fils puisse imiter. Le comportement des onze, et non le comportement d'Hyménée, de Philète et d'Alexandre, des faux docteurs.
Amen. Alors enfin, pour conclure, bien qu'il y ait des difficultés, et il y en aura toujours, parce que Jésus a dit aux 70 qu'il a envoyé deux à deux. Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de qui? Au milieu des loups. C'est ça la vérité. Vous croyez que nous sommes ici, chez nous, au ciel? Nous ne sommes pas encore au ciel. Notre cité, elle est au ciel. Ici, nous sommes dans un monde hostile. Nous sommes des brebis. Vous savez, une brebis et un loup à côté. Ça marche? Vous savez ce qui arrive, hein? Le loup devant une brebis. Bon, il y a deux ou trois ans, il suivait les fermiers qui se plaignaient des loups, parce que c'était un animal protégé. Il n'y en a plus beaucoup, on les protège. Mais aussi, ils viennent, ils entrent dans la ferme, ils tuent 3, 4, 5, 6 brebis, et ils vont même croquer une seule. Et ils ne croquent pas la brebis en entièreté. Et les autres 5, là. Il a seulement tué, pour le plaisir de Dieu, il a gâché. Les loups. Alors, nous, bien-aimés, Jésus a dit, nous sommes comme des agneaux, des brebis, au milieu de loups. C'est dans ce monde où il y a des loups que nous devons annoncer la parole de Dieu. Ça n'a jamais été facile, ça ne sera pas facile. Il y en a qui croient qu'ils attendent de bons moments. Il n'y a pas de bons moments. On dit de prêcher la parole de Dieu à temps et à contre-temps. Voilà. Que le temps soit favorable ou non, prêchez la parole de Dieu. Parce que ceux qui meurent, ils vont en enfer. Hein? Ah, mais je vous l'ai dit.
Avec beaucoup d'amertume, les jeunes qui étaient à Bataclan. Et puis, quelle musique, vous savez, quelle musique était là? Ils sont allés au ciel. C'est en enfer, c'est pour l'éternité. Mais alors, les autres jeunes, c'est le moment d'annoncer la parole aux autres jeunes qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ. Pas seulement les jeunes, les parents, les mamans, les papas, les frères et sœurs, dans l'ensemble. Nous avons la responsabilité d'annoncer Jésus. Qu'il pleuve, qu'il neige. Enfin, voici l'exhortation que le Seigneur lui-même avait donnée à Josué. Je pense que cette exhortation nous concerne nous aussi aujourd'hui. Le Seigneur, quand il s'était choisi Josué pour remplacer Moïse a rencontré beaucoup de difficultés. Hein. À un moment donné, il était prêt à abandonner. Mais le Seigneur l'a exhorté. Il a tenu. Alors maintenant, quand c'était le tour de Josué, Dieu va le prévenir. Ce n'est pas facile, il le prévient. Voici ce que le Seigneur dit. Josué chapitre 1, versets 5 à 9. C'est une exhortation que Dieu avait donnée à Josué. Elle nous concerne nous aussi aujourd'hui. Voici ce que Dieu dit à Josué. Fortifie-toi. Voilà. Fortifie-toi. Et prends courage. car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Bien-aimé, le Seigneur est conscient du fait qu'il y a des situations qui vont effrayer Josué. Beaucoup de situations qui vont même l'épouvanter. Et il dit, non, attention, prenez courage. Prends courage. Ne t'effraie point. Ne t'épouvante point. Cette exhortation est valable aussi pour toi et pour moi. Nous devons annoncer Jésus dans ce monde qui nous est hostile, qui était hostile à Jésus, et elle est aussi hostile contre nous. Alors, lève-nous, bien-aimés, comme des bons soldats. Dieu attend de toi et de moi que nous soyons des bons soldats pour annoncer l'Évangile. Et Paul a dit à Timothée, souffre avec moi. Il y a la souffrance qui est attachée. Ne craignez pas la souffrance. Jésus, notre Seigneur, en qui nous avons cru, il a souffert. Non, mais les divinités, ils sont là, alors suivez. C'est que vous allez voir comment le Seigneur a souffert pour toi et pour moi. Pour que toi et moi, nous ayons la liberté aujourd'hui. Nous soyons appelés enfants de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Seigneur, je te bénis. Merci parce que tu aimes ton peuple. Tu aimes ton Église. Et tu t'en occupes. Nous sommes au début de l'année. Tu veux que nous soyons des bons soldats qui combattons le bon combat de la foi. Comme Paul, nous devions arriver à la fin de notre combat et nous devons garder la foi. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que tu ne nous abandonnes pas. Tes apôtres ont été emprisonnés, mais l'ange est descendu. Il les a libérés, il a ouvert la porte. Il dit, allez, continuez à annoncer cette bonne nouvelle. Et c'est ce que tu voudras encore aujourd'hui, que nous puissions continuer à annoncer cette bonne nouvelle, comme des bons soldats. Oh, je te bénis, mon Dieu, mon roi. Fais en sorte que mes sœurs ici présentes, mes frères ici présents, Seigneur, soient des bons soldats pour combattre le combat de la foi. Je te bénis, mon Dieu, mon roi, parce que tu nous attends. Tu es avec nous. Tu nous accompagnes à ce combat. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec toi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom soit béni. Amen.